en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur Canal Académie pour cette émission en habit vert. C'est à la rencontre d'un homme exceptionnel qui fut à la fois juriste, historien, sociologue, professeur d'université que Canal Académie vous invite dans cette émission. Un homme que tous les jeunes sociologues d'aujourd'hui, particulièrement ceux qui s'intéressent aux questions religieuses, et je devrais dire aussi tous les jeunes juristes sans doute, vénèrent comme un maître, un homme auquel la Fondation Simone et Sino del Duca, présidée par M. Pierre Messmer, a consacré toute une journée d'études, de témoignages, de réflexions. Cet homme, qui fut membre de l'Académie des sciences morales et politiques, c'est Gabriel Le Braz, auquel Canal Académie s'honore de rendre hommage aujourd'hui. Gabriel Le Braz, que l'on peut présenter succinctement comme l'un des pères fondateurs de la sociologie religieuse, mais nous allons en parler plus en détail avec nos invités, mes invités, deux personnalités, Monsieur Jean Foyer, ancien ministre, ancien garde des Sceaux, et Madame Brigitte Badevant-Godemet, professeure à l'Université de Paris 11. Madame Badevant-Godemet, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour madame.
Nos auditeurs vous connaissent bien.
La grande majorité de ses recherches, en tout cas au début de sa carrière, sans l'abandonner pour autant par la suite. Mais Le Braz faisait partie de ces juristes, nombreux je crois, qui ne s'arrêtent pas à la lettre du droit et qui ne s'arrêtent pas aux mots. Il voulait, c'était sa préoccupation constante, rechercher derrière les mots quels étaient les hommes qui recevait ces mots, qui les acceptait ou les refusait. Et il a glissé à la sociologie sans pour autant oublier qu'il était juriste. Donc, quand on le qualifie de fondateur de la sociologie religieuse, je crois que beaucoup d'historiens ou de sociologues des religions aujourd'hui reconnaissent que Le Braz est aussi le fondateur de la sociologie religieuse, même si l'optique dans laquelle il travaillait cette sociologie n'est peut-être pas celle de tous les sociologues des religions aujourd'hui. Mais ça, c'est une autre question. Alors, quel qualificatif? Pour un homme de cette envergure-là, il en faut beaucoup. Et
donc, vous les partagez tous?
Oh, je les partage à peu près tous, oui.
Alors, je vais seulement me servir, Madame Badevant-Godemet, si vous me le permettez, d'un texte qui résumerait un tout petit peu la formation de Gabriel Le Braz pour que notre information soit bien complète. Il était né à Paimpol le 23 juillet 1891 et il est mort à Paris le 18 février 1970. Il était donc breton, il est resté très attaché à la Bretagne. Il avait fait des études, donc vous l'avez dit, de droit et de lettres. Puis, il est devenu docteur en sciences politiques et économiques avec une thèse sur l'immunité réelle, une thèse qu'il a passée en 1921. Et il est devenu docteur en droit en soutenant sa thèse, l'évolution générale du procurateur en droit privé romain. Et il est reçu au concours d'agrégation d'histoire du droit la même année. Je regarde M. Foyer quand je dis ça, car je pense que vous avez vous-même été reçu au concours d'agrégation un peu plus tard, mais ça oui. Devait être à peu près
et,
le même.
Et moi dans la section de droit privé.
Alors Gabriel Le Braz avait commencé sa carrière en enseignant donc le droit romain à la faculté de droit de Strasbourg entre 1923 et 1929, puis il a enseigné l'histoire du droit canonique à l'Institut de droit canonique de la faculté de théologie de Strasbourg de 1922 à 1964. Et c'est là que votre père a sans doute pris sa succession, n'est-ce pas?
Il a pris sa succession à Strasbourg.
Non, à Strasbourg. Il a ensuite été nommé à la faculté de droit de Paris en 1929, à la chaire d'histoire du droit canonique. Il était professeur à l'école pratique des hautes études, dans la fameuse section des sciences religieuses, la cinquième section, dont il a assuré la direction jusqu'en 1951. Il était doyen de la faculté de droit de Paris, c'est pour ça qu'on l'appelle le doyen Le Braz, mais on va revenir un tout petit peu sur la chronologie de sa carrière de façon à bien suivre exactement tout ce qu'il a fait. Auparavant, madame, j'aimerais que vous me disiez un petit peu le droit canonique, exactement. Qu'est-ce que cette discipline? Parce que je ne sais pas sûr que tout le monde la connaisse.
Le droit canonique, c'est par définition le droit qui s'applique à l'Église. Alors le droit canonique de l'Église catholique latine, le droit peut-être d'autres religions que l'on qualifie de canonique ou non selon les religions, enfin c'est le droit interne aux religions. Et donc le droit canonique qu'enseignait le doyen Lebras et qu'il étudiait, c'était essentiellement le droit canonique de l'Église latine, et essentiellement il le voyait d'un point de vue historique. Mais il ne se limitait pas à l'histoire, il a abondamment traité aussi de l'Église contemporaine, des relations Église-État ou du droit interne de l'Église contemporaine.
Vaste programme en effet. Alors, en 1931, le doyen Lebras, qui n'était pas doyen, alors on va l'appeler monsieur Lebras à cette époque-là, il lance la grande enquête sur les pratiques religieuses de la France contemporaine. Alors, pourquoi cette enquête est-elle restée dans les mémoires, au fond, à la fois des juristes et des sociologues? Était-ce la première fois qu'on enquêtait sur les pratiques religieuses?
La précision et l'amplitude de l'enquête qu'il a voulu mener était une nouveauté, une innovation et une entreprise absolument tout à fait importante. Alors, il l'a lancée, il s'est entouré de collaborateurs, le chanoine Boulard notamment, il s'est entouré de collaborateurs, et ça consistait dans chaque diocèse à une enquête précise et détaillée des pratiques réelles de chaque catholique dans chaque église.
C'est
donc
énorme,
une ambition,
oui,
énorme,
une ambition énorme
qui a été menée dans une très large mesure, qui a été menée, qui a été publiée ou dont d'autres documents sont encore consultables. Ces archives ont été données à l'Institut catholique. Donc on peut consulter un certain nombre de résultats de ces enquêtes non publiées dans les archives de l'Institut catholique. Et il a initié par là un courant de recherche sur la pratique, sur le vécu religieux et pas seulement sur les textes fondamentaux du droit lui-même.
Ça ne s'était pas fait, au fond,
ça
avant lui.
Ça ne s'était pas fait avant lui. Et ça s'est poursuivi avec peut-être des orientations un petit peu différentes par la suite, mais ça s'est poursuivi en partie.
Alors là, on est dans les années 30, M. Foyer. Oui. Ne pensez-vous pas qu'il a constaté sur le christianisme ou sur la pratique religieuse une désaffection?
Oh, en 1930, ce n'était pas encore sensible, comme ça l'est devenu dans les années 1960. À cette époque-là, il a non seulement eu des collaborateurs parmi des personnalités qui avaient une formation scientifique considérable, mais il a même employé des étudiants dans des travaux très concrets, tels que par exemple d'aller compter le nombre des personnes qui assistaient à la messe dans telle église.
En ce sens, c'était de la sociologie, en effet, oui.
Et puis alors, il avait classifié les fidèles ou les chrétiens en plusieurs catégories selon l'importance de leur pratique. Il y avait une première catégorie qu'il appelait des catholiques des quatre saisons. Ceux qui avaient été baptisés, qui s'étaient mariés à l'église, qui avaient reçu la confirmation, et puis qui se faisaient... Qui s'étaient mariés à l'église.
Oui.
Et qui se faisaient, pour finir, enterrer religieusement. Puis après, une deuxième catégorie, c'était ceux dont la pratique consistait au minimum à s'acquitter de la confession annuelle et de la communion pascale, ce qu'il appelait les pascalisants, et puis ensuite les fidèles réguliers, etc. Alors, il classait les gens dans ces catégories-là.
Alors après, dans les années 44-45, là on est encore dans la période de la guerre, il lance une autre grande enquête.
Mais entre-temps, là, pendant la guerre, entre 40 et 44, il a fait beaucoup d'activités résistantes.
Ah oui, c'est important de le souligner.
À la faculté de Paris. Et là encore, il a utilisé ses étudiants à des tâches modestes mais utiles, comme de diffuser de la presse clandestine, etc., de camoufler des parachutés ou des évadés. Enfin, c'est comme ça que j'ai travaillé le plus avec lui.
Ah oui.
Oui, mais ça m'a d'ailleurs valu. C'est lui qui est à l'origine de ma carrière politique. Parce que dans les jours qui ont suivi la libération, René Capitan, ministre de l'Éducation nationale, est venu d'Alger à Paris. La première chose qu'il a faite était d'aller voir son collègue et ami, le professeur Lebras, et lui a demandé de lui recommander des personnes pour étoffer un peu son cabinet ministériel. Et le professeur Lebras lui a conseillé de m'engager. Alors le ministre m'a envoyé chercher, puis j'ai commencé très modestement comme un attaché de cabinet au ministère de l'Éducation nationale.
Et voilà, et après vous avez développé cette grande carrière que l'on sait.
Il y aurait peut-être eu quelque chose à dire, mais là, c'est à Mme Badevin de le faire plutôt que moi. C'est tout de même, non seulement pendant cette période-là, mais avant le commencement de cette période, durant laquelle il s'est occupé de la pratique religieuse, il avait fait dans le domaine de l'histoire canonique des choses extrêmement importantes. Il avait écrit notamment un article sur le mariage à partir de l'an 1000 dans le dictionnaire de théologie catholique, un article sur l'usure, c'est une question qui l'intéressait beaucoup.
Ah,
ça,
l'usure.
Et puis surtout, avec son maître Paul Fournier, il avait écrit une histoire des collections canoniques. Je crois que ça mériterait quand même quelques développements de Mme Badevin.
Alors, Mme Badevin.
Puisque nous parlons du doyen Lebras ce soir.
Effectivement, l'histoire des collections canoniques, c'est pas directement la sociologie. Les collections canoniques, c'est quelque chose d'assez spécifique au droit canonique. Ce sont des sources du droit canonique qui, à travers l'histoire, traversent les siècles. Une collection, c'est une sorte de petite compilation de petits bouts de texte découpés et recollés un peu au goût de celui qui compose la collection. Et alors, il y a eu sûrement des milliers de collections canoniques entre le 4e et le 15e siècle. Beaucoup ont disparu, à la limite peut-être heureusement pour les historiens, mais on en retrouve tout de même un nombre considérable de manuscrits, on en édite quelques-unes, ça permet de connaître le droit de l'Église, l'évolution du droit de l'Église, disons des origines à la fin de ces collections, c'est-à-dire le 14e siècle. Alors effectivement, Lebras, qui était l'élève de Paul Fournier, a écrit deux volumes qui restent fondamentaux aujourd'hui sur l'histoire des collections canoniques, où il raconte comment ces collections se forment, quelle est l'orientation que l'auteur veut donner. Est-ce qu'il veut défendre le pouvoir pontifical? Est-ce qu'il veut défendre les monastères? Est-ce qu'il veut défendre le pouvoir des seigneurs? C'est plus rare dans les collections canoniques, mais ça existe tout de même. Est-ce qu'il veut défendre le pouvoir des évêques? Donc, l'orientation que l'on veut donner est finalement tout le cheminement du droit canonique à travers ces collections. Et là, ce sont des œuvres vraiment très précises juridiquement qui demandent des dépouillements dans des archives manuscrites extrêmement difficiles et approfondies et qui ne sont pas directement la sociologie. Même si Lebras cherchait toujours à savoir qui appliquait ces textes.
On a bien fait de demander à Madame Badevin de nous préciser cela. Donc, poursuivons quelques grandes dates dans la vie de Gabriel Lebras.
On pourrait aussi dire un mot au passage. C'était un enseignant qui était tout à fait exceptionnel. Il avait des cours qui étaient d'un intérêt prodigieux. Il avait une vertu tout à fait exceptionnelle. Ses étudiants avaient le sentiment de devenir intelligents en l'écoutant. Je crois que c'est vraiment une qualité pédagogique rare, exceptionnelle.
Certainement, mais vous avez en effet bien fait de le préciser. Il était aussi, dans les années 47, conseiller pour les affaires religieuses auprès du ministre des Affaires étrangères, au Quai d'Orsay. Est-ce que c'est un poste qu'il conservera jusqu'à son décès? Est-ce que c'est un poste important, monsieur le ministre, poste-là?
C'est un poste important, oui, et ça dépend un peu des circonstances. C'est un poste important dans la mesure où le gouvernement au pouvoir s'intéresse à la vie de l'Église, à la composition de l'épiscopat, à son fonctionnement, ça l'est beaucoup moins quand il s'y intéresse peu. Bon, par exemple, actuellement, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que les nominations épiscopales intéressent particulièrement le gouvernement. Mais à certaines époques, ça l'a beaucoup intéressé. Et alors, vous aviez, il y en a toujours un d'ailleurs, au ministère des Affaires étrangères, un conseiller pour les affaires juridiques, religieuses, qui a été pendant très longtemps un membre du Conseil d'État qui s'appelait Canet, et qui était, on peut dire, le dernier des Gallicans.
Ah, il en restait un.
Ah, il en restait un, mais c'était lui. Alors vraiment, lui, il était d'un gallicanisme solide. Et il a été remplacé après la Libération, il était d'ailleurs très âgé à ce moment-là, par le professeur Lebras, qui s'est beaucoup intéressé à cette fonction. Ça l'intéressait beaucoup, notamment, il s'intéressait tout particulièrement aux nominations épiscopales. Et il était très content de recevoir chez lui les ecclésiastiques qui pensaient avoir quelques charismes pour la dignité épiscopale et des choses comme celle-là. Et c'est un poste qui l'a beaucoup intéressé, pas seulement les nominations épiscopales, mais vous avez eu toute une période durant laquelle il y a eu des problèmes entre le gouvernement français et l'Église catholique, notamment à propos du financement de l'enseignement privé, dont le conseiller pour les affaires religieuses était obligé de s'occuper. Alors, il a eu comme successeur le père de Mme Badevant.
Voilà, M. Jean Godemet.
Oui. Et puis alors, autre chose, par la suite, actuellement, j'ai l'impression que le gouvernement se soucie plus beaucoup des nominations épiscopales. Il a probablement, peut-être d'ailleurs, tort de le faire, de ne pas s'en occuper suffisamment, parce que je ne crois pas qu'au total, ce soit une très mauvaise chose que le gouvernement se mêle des nominations épiscopales, et qu'après tout, l'épiscopat concordataire du XIXe siècle, qui était nommé par décret du chef de l'État, ou empereur, roi ou président de la République, à mon sens, cet épiscopat était d'une qualité intellectuelle, à mon avis, très convenable. C'est peut-être votre sentiment.
Madame Badevant.
Il est vrai que à l'heure actuelle, il semble que le gouvernement s'y intéresse moins. C'est peut-être aussi tout de même que Rome n'apprécie plus que les gouvernements s'y intéressent.
Oui, mais enfin...
Mais effectivement, le gouvernement sûrement intervient moins, alors qu'à l'époque de Le Braz...
Il intervenait beaucoup.
Les avis donnés par le conseiller pour les affaires religieuses étaient souvent décisifs.
Aujourd'hui, le gouvernement s'en occupe même si peu. Il reste encore, par exception, une partie du territoire sur lequel les rapports entre l'État et l'Église catholique sont régis par le Concordat de 1801.
Oui.
Par conséquent, l'archevêque de Strasbourg et l'évêque de Metz sont nommés par décret du président de la République et ils doivent ensuite recevoir du souverain pontife l'institution canonique. Or, on a le sentiment qu'à l'heure actuelle, le gouvernement se préoccupe de savoir quelle serait la personnalité ecclésiastique que l'Église souhaiterait voir nommée. Et la nomme.
Il ne souhaite pas de conflit.
Non seulement il ne souhaite pas de conflit, mais il y a une véritable inversion du pouvoir de nomination qui a repensé en fait à l'Église. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a encore eu des gouvernants qui s'intéressaient aux nominations épiscopales. Et à l'époque où j'étais moi-même ministre, j'ai eu l'occasion de voir que le général de Gaulle s'y intéressait beaucoup.
Voilà un témoignage intéressant. Je vous propose de marquer une courte pause avant de reprendre cette émission consacrée à Gabriel Le Braz. Bonjour, c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission Au fil des pages. L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture ou encore les ouvrages primés par les académies. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure. Retour dans notre émission Un habit vert consacrée à Gabriel Le Braz en présence de Madame Brigitte Badevant-Godemet et de Monsieur Jean Foyer. Passons à un événement qui s'est passé dans les années 1954. Gabriel Le Braz a constitué un petit groupe d'amis et il a lancé une collection intitulée L'histoire du droit et des institutions de l'Église d'Occident. Madame Badevant, pourquoi cette collection est-elle importante?
Alors, cette collection était voulue par le doyen Le Braz et l'idée était d'avoir une trentaine peut-être de volumes parce qu'il y a des tomes et plusieurs volumes dans chaque tome. Donc au total une trentaine de volumes traitant effectivement de l'histoire du droit canonique et l'histoire des institutions de l'Église d'un point de vue juridique. C'est une très très belle ambition qui a été en large partie réalisée. Pas totalement, tous les volumes ne sont pas parus, mais il s'était entouré d'une équipe importante, des spécialistes de l'histoire du droit canonique. L'ambition était peut-être tout de même de traiter vraiment de toutes les périodes sous les différents aspects des institutions de l'Église et il n'a pas trouvé d'auteur pour certaines. Il y a tout de même plusieurs volumes qui sont parus sur l'Antiquité, sur l'époque médiévale. Jean Humbert a publié dans cette collection deux volumes sur l'époque carolingienne.
Jean Humbert, de l'Académie des sciences morales et politiques. Deux volumes, en effet.
Historien du droit canonique, lui aussi. Donc, deux volumes qui sont dans les derniers qui sont parus de la collection. Je ne suis pas sûre que ce soit les derniers, mais c'est dans les derniers. Deux volumes sur les sources du droit à l'époque carolingienne et sur les institutions de l'Église à l'époque carolingienne.
Voilà, et qui sont parus aux éditions Cujas, respectivement, en 94 et 96.
Et votre père a écrit un ouvrage considérable sur l'Église impériale.
Mon père a écrit, Jean Godemet a écrit effectivement sur l'Église au IVe siècle. C'est un des premiers ouvrages qu'il a fait, presque. Mais ces ouvrages restent fondamentaux aujourd'hui pour les historiens du droit des institutions de l'Église.
Et alors, le doyen Lebras lui-même n'a écrit aucun de ces volumes, mais il a écrit un volume d'introduction qu'il avait intitulé Prolégomène.
Prolégomène, voilà, c'est le titre.
Et c'est un ouvrage qui est magnifiquement écrit. Et notamment, les titres latins de ces trois parties, c'est superbe. Concordia discordantium, speculum juris et fortuna legum.
Voilà, que M. Foyer cite de mémoire, je le précise.
Bon, parce que j'ai la manie de baragouiner un peu latin, parce que j'aime beaucoup cette langue.
Voilà, M. Foyer, le doyen Lebras, donc, qui a été élu doyen de la faculté de droit de Paris en 1959, est devenu membre de l'Académie des sciences morales et politiques en 1962, dans la section législation, droit public et jurisprudence. Et vous-même, vous siégez dans cette section.
Alors, j'ai effectivement cet honneur aujourd'hui.
Quelle mémoire regarde-t-on à l'Académie du doyen Lebras?
Vous savez, malheureusement, dans cette honorable compagnie, dans cette compagnie savante, les souvenirs s'effacent au fur et à mesure que l'Académie se renouvelle. À l'heure actuelle, je crois qu'il n'existe plus un seul membre de l'Académie qui est siégé en même temps que le doyen Lebras.
Il est mort en 1970.
Peut-être le chancelier Bonnefousse, mais
on lui demandera.
Il doit être à peu près le seul. Mais je crois qu'il reste malgré tout par ses écrits.
Comment définiriez-vous son héritage, Madame Badevant Godemet?
Je le vois très large, alors je ne sais pas comment le définir. Mais son héritage, déjà en matière d'histoire du droit canonique, c'est fondamental, parce que cette collection dont on vient de parler, c'est la collection à laquelle tous les chercheurs en histoire du droit canonique, et pas seulement en France, se réfèrent immédiatement. Après ça, on va peut-être chercher autre chose, mais on commence par cela. Les études de sociologie, je crois que les sociologues des religions se veulent tous dans la ligne du doyen Lebras. Et puis, on n'a pas parlé, mais vous en parlerez peut-être à une autre occasion, de la Société d'Histoire de l'Église de France.
Oui, nous ferons une autre émission avec M. Marc Vénard.
Alors là aussi, c'est le père
sujet.
Et c'est son héritage. Donc, effectivement, dans beaucoup de domaines, on n'a pas non plus dit qu'il était un musicien et qu'il aimait même composer des petites œuvres. Alors, que de retenir de cet homme beaucoup de choses.
Voilà, vous l'aviez croisé vous-même, personnellement?
Je le connaissais, je n'ai jamais été son élève. Je le connaissais parce que nos pères se connaissaient, parce que j'étais amie de ses enfants. Et j'avais eu l'occasion d'aller chez lui, sa maison était toujours ouverte. Donc je crois que je fais partie de ces très nombreuses personnes qui ont eu la chance d'aller chez lui et de bavarder avec lui, de visiter des églises avec lui. Et là aussi, c'était un guide extraordinaire.
En effet, je veux bien vous croire. Pour terminer cette émission, on peut conseiller quelques ouvrages de Madame Brigitte Badevant-Godemet. L'un avec Francis Messner, « Origine historique du statut des confessions religieuses dans les pays de l'Union européenne ». C'est un ouvrage tout à fait utile en ce moment, il est paru au PUF. On peut citer aussi un autre ouvrage avec Germain Sicard, « Les communes françaises, l'enseignement et les cultes de la fin de l'Ancien Régime à nos jours », paru chez Champion en 2005. Et puis, vous avez dirigé avec Marie Cornu et Jérôme Fromageau « Le patrimoine culturel religieux » chez L'Harmattan, et ça vient de sortir cette année 2006. Quant à M. Foyer, nous attendons vos mémoires qui vont paraître en juin 2006. Chez quel éditeur?
Chez Fayard.
Chez Fayard, eh bien, il ne me reste qu'à vous remercier tous les deux, Madame Badevant-Godemet et M. Foyer, pour cet hommage que vous avez rendu, j'espère magnifiquement, à Gabriel Lebras. Merci beaucoup.